Tu vois ça?
C'est l'Europe.
Henri, je t'explique. Là-bas, quand tu as besoin de manger, tu dis j'ai faim. La nourriture cuite au ciel tombe dans ta bouche. Là-bas, c'est là-bas, c'est un pays où le moustique boit Coca-Cola. T'as déjà vu ça? Là-bas, le moustique boit Coca-Cola. Il te parle. Là-bas, café moins spaghetti. C'est pas beau ça. C'est pas... Il dit, ici, un vrai marabout. Un vrai de vrai.
C'est de la fiction ou presque ce soir. Dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de clandestinité, du Nigeria, de ghetto communautaire, d'Emile Nolde, de Siegfried Lenz et même de Nana Mouskouri avec Boris Lochkine qui réalise Hope, premier film de fiction pour un documentariste formé à la philosophie, le parcours d'un couple de réfugiés, lui est camerounais, elle est nigériane, en route vers l'Eldorado européen. Manu Farine.
Un film de migrants tourné comme un western ou comme en mythologie et grands espaces à conquérir sont désormais côté sud.
19h30, plateau Habiter les livres avec Lionel Duroy qui signe Échappée, roman du couple et de la nécessité de la littérature pour un écrivain qui, comme son narrateur, tomberait malade s'il n'écrivait pas. Manu Farine.
Portrait d'un écrivain tremblant condamné à écrire pour qui les moments sans écriture sont des moments non vécus.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre bien sûr avec le son du jour.
Kto podejdzie, będzie zastrzelony bez ostrzeżenia. To jest Vernichtungslager Majdanek.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, un son qui date de 1945.
Oui, c'est un extrait d'un film tourné par les soviétiques à leur arrivée au camp de Majdanek, qui est juste à côté de celui d'Auschwitz en Pologne. Il est issu d'une exposition qui vient d'être lancée au mémorial de la Shoah. Il montre des images très ambiguës tournées par les caméras russes au fil de la libération des camps, qui montrent souvent les déportés en pleine santé et qui sont de vrais objets de propagande. Une exposition qui ouvre alors que cette cérémonie avait lieu aujourd'hui à Auschwitz-Birkenau pour célébrer les 70 ans de la libération du camp. 300 survivants étaient présents, plusieurs chefs d'État, dont bien sûr François Hollande. Et le président russe, Vladimir Poutine, a brillé par son absence, conséquence des relations tendues entre la Russie et l'Occident depuis la crise ukrainienne. Mais dans son discours prononcé au musée juif de Moscou, il a mis en garde et jugé inacceptable toute réécriture possible de l'histoire.
Tout de suite, Zoé, on passe au dossier du jour consacré à une exposition au pavillon Vendôme de Clichy-la-Varenne en Île-de-France. Une exposition baptisée « Fémina ou la réappropriation des modèles ». Elle présentait plusieurs œuvres féministes et l'une d'elles, « Le silence » de l'artiste marocaine Zulika Abou Abdallah, a été pointée du doigt par une fédération musulmane.
Mais alors, ce qui s'est passé a été un peu confus, mais le jour du vernissage, le maire de Clichy-la-Garenne, Gilles Gatoir, ne s'est pas montré. Quelques jours auparavant, il avait fait savoir aux deux commissaires de l'exposition et aux gérants de cet espace, qu'une fédération de citoyens musulmans s'était plainte de cette œuvre de Zulika Abou Abdallah qui offenserait le tapis de prière et que d'éventuels incidents pourraient avoir lieu si elle était exposée. L'artiste marocaine qui avait présenté la veille son œuvre sur TV5 Monde se dit extrêmement blessée d'être au centre de cette polémique. Plus qu'à l'auteur de ces plaintes ou de ces menaces larvées, elle pointe du doigt le maire de Clichy-la-Varenne.
C'est une installation qui est faite de tapis sur lesquels, au centre, je pose des chaussures. Elle a été montrée dans plusieurs endroits dans le monde également, dans des lieux culturels, et on m'a jamais fait de reproche du fait de détourner le tapis. Cette pièce, elle parle de la position des femmes dans le monde musulman, qui dit que l'islam est conforme avec la modernité. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt un éloge à la culture musulmane. Moi, ce qui me choque, en fait, ce n'est pas tant qu'une association musulmane soit choquée de ma pièce. Ils ont tout à fait le droit, je peux les comprendre. Ce qui me choque, c'est que le maire de cette ville, qui est garant des valeurs de la République, n'a pas essayé de saisir l'occasion, mais c'est une occasion géniale de réunir les gens, de nous permettre de nous parler. Et à la place de ça, il nous a mis tous dos à dos. C'est terrible.
Car après avoir fait relayer cette lettre de la Fédération musulmane par ses services, le maire de Clichy-la-Varenne n'a pas réagi.
Oui, et c'est ce que lui reprochent justement donc les deux commissaires de l'exposition et Stéphane Magnan, qui dirige la galerie des Filles du Calvaire, qui représente Zulika Abou Abdallah ainsi que beaucoup d'autres artistes exposés. Il explique qu'elle a été laissée seule face à une situation qu'elle ne pouvait pas maîtriser et qu'elle n'a eu d'autre solution que de retirer l'œuvre.
Ce qui s'est passé, c'est qu'une espèce de peur s'est instaurée entre les commissaires, l'artiste et leurs interlocuteurs, et que la mairie le maire en particulier, au lieu de dire « bon ben, je suis le garant que cette exposition peut se passer dans la liberté d'expression », ça ne s'est pas produit. Et il y a eu cette espèce de transfert de la responsabilité d'assurer la sécurité, entre guillemets, des biens et des personnes, sur les épaules des artistes et des commissaires. C'est complètement inconcevable. C'est de l'abandon en race campagne d'artistes devant s'exprimer, et donc c'est le muselage de ces artistes, enfin de cet artiste en particulier, devant une espèce de menace floue qu'elle était bien entendu incapable de maîtriser, et c'était pas son rôle de la maîtriser.
Voilà, alors de son côté, le maire de Clichy-la-Garenne a publié en fin d'après-midi un communiqué dans lequel il indique, je cite, qu'il s'était fait une règle de principe de laisser aux professionnels le choix des programmations culturelles dans les établissements culturels de la ville de Clichy, qu'il n'était pas de son ressort en somme de décider quelles œuvres devaient faire partie de cette exposition. Il a néanmoins accepté de rencontrer Stéphane Magnan. Il s'est engagé à assurer la sécurité de l'exposition dans son intégralité, c'est-à-dire avec l'œuvre de Zouliha Bouabdallah. Un conseil municipal a lieu ce soir pour confirmer ou non cette décision.
Mais quel est le nom de la Fédération musulmane qui a demandé justement, qui a fait cette lettre?
Je n'ai pas réussi à avoir l'information.
Ah bon? Le maire n'a pas voulu la donner?
C'est ni le maire ni le reste, que c'est une information qui a été donnée plusieurs fois, et qui plus est, et à la fois les artistes et à la fois le maire n'ont pas envie de mettre la pression sur cette fédération, mais sur plutôt la réaction qui devrait être celle du maire, dans une logique où il y a un droit et une liberté qui doit être garantie.
Oui, mais enfin, on pourrait aussi entendre les gens de la Fédération musulmane s'exprimer sur ce thème-là. Donc il faudra peut-être essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités?
Ce qui est assez choquant, c'est l'espèce de censure systématique et puis cette espèce de peur de l'humour aussi qui va peut-être nous gagner. C'est très malheureux, je trouve.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et on ouvre avec le jury du Festival de Berlin qui aura lieu la première semaine de février, qui a été dévoilé aujourd'hui. On y retrouve, une fois n'est pas coutume, c'est assez rare, pas mal de femmes. Parmi elles, l'actrice française Audrey Tautou, la productrice américaine Martha De Laurentiis et la réalisatrice péruvienne Claudia Llosa, récompensée en 2009 d'un ours d'or pour son film Fausta. Seront aussi présents l'acteur hispano-allemand Daniel Brühl, Matthew Wiener, créateur de la série Mad Men, et c'est Darren Aronofsky, réalisateur notamment de Black Swan, qui présidera ce jury.
Carrefour se lance dans le marché très disputé de la vidéo en ligne.
Et oui, le groupe de grande distribution a lancé aujourd'hui son service de films et séries en ligne sur nolim.fr, donc c'est Nolim Film. Le groupe commercialise déjà sur ce site depuis un an des livres numériques et des liseuses. Alors il a déjà 3000 références en ligne. Chaque jour, des dizaines de films et de séries seront ajoutés avec des abonnements entre 1,99€ et 4,99€ seulement. Carrefour ambitionne de devenir tout simplement le numéro 1 en France.
Serge Joncourt, lauréat du prix des Deux Magots.
Avec L'écrivain national, roman qui raconte une rencontre improbable et explosive entre un auteur en résidence dans une petite ville imaginaire et les habitants de cette ville. Il faisait partie de plusieurs listes de prix mais n'en avait pas remporté. Et finalement, il remporte donc les Deux Magots, l'un des plus vieux prix littéraires de France, fondé en 1933 et doté de 7 700 €.
La dernière.
C'est une histoire de photos, de droit à l'image, de manteau léopard, de modèle un peu tatillon. C'est une histoire qui commence en mai 2013. Le photographe allemand Espen Eichhoffer, j'espère que je le dis bien, qui se dit spécialiste de la photo de rue, fixe dans un cliché les pas pressés d'une jolie passante qui traverse une rue à Berlin près de la gare de Zulgischer Garden. Et quelques mois plus tard, l'image de cette femme est apparue donc dans son exposition, une exposition à la galerie CO de Berlin. Et là, il se trouve que, coïncidence, la jeune femme rentre dans la galerie, se reconnaît grâce ça, son manteau léopard, c'était ça son signe distinctif. Et là, elle décide de saisir la justice. Peut-être qu'elle avait des problèmes d'argent, on ne sait pas. Elle réclame donc 4 500 € d'indemnité à l'artiste, la même somme à la galerie qu'il a exposée. Procédure extrêmement rare, mais juridiquement assez justifié, puisqu'en théorie, je le rappelle, tous les photographes doivent, pour respecter le droit à l'image, soit renoncer à diffuser des clichés sur lesquels figurent des personnes qui sont reconnaissables, soit obtenir une déclaration de consentement écrite auprès de ces personnes. Alors Eichhoffer souligne qu'en pratique, c'est complètement impossible, puisqu'on ne peut pas courir après chaque personne qu'on photographie, et que si on demandait l'accord au préalable, eh bien, le moment de la photo serait perdu. Et le tribunal de Berlin a donc fini par rejeter les demandes financières de cette dame, mais il reconnaît une atteinte à ses droits de la personnalité. Voilà, alors ça passe très mal pour Espen Eichhoffer qui a décidé d'attaquer ce verdict pour défendre le genre de la photo de rue légendaire au nom de Doisneau, de Willy Ronis, etc. Problème, ça va coûter très cher, 14 000 € pour cette procédure. Alors il a lancé un appel aux dons. Et il y a donc sur le site de financement participatif StartNext une levée de fonds auquel vous pouvez participer si vous voulez. Donc ces 14 000 euros, ça correspond aux frais qu'il devrait payer dans le cas d'une défaite totale, donc dans le pire des cas. Et si au contraire le tribunal se prononce en sa faveur, il s'engage à organiser un colloque sur la photo de rue.
Lionel Duroy, j'ai comme le sentiment que vous allez participer à cette dotation.
Oui. Ah oui, je vais donner là tout de suite. Je trouve ça exaspérant, cet appel systématique à la justice contre les gens qui sont des créateurs. C'est impossible de faire des photos si c'est ça.
Comme il est impossible d'écrire aussi dans certains cas.
Oui, oui, je pense que c'est infernal les gens qui systématiquement se posent en censeur, font appel à des magistrats pour savoir si on a le droit d'écrire ceci ou cela. On a le droit de tout écrire, on a le droit de tout photographier et toujours je défendrai cette liberté.
Vous avez été, je crois, victime de ce genre d'attaque par rapport à vos livres. Comment juridiquement cela s'est traduit ?
Ça s'est traduit que le livre n'a pas été saisi. Le livre existe puisqu'il s'agit de Colère que j'ai publié il y a 3 ou 4 ans. Et la plainte était dirigée contre mon éditeur qui a payé 10 000 euros. On lui réclamait 30 000, il a été condamné à 10 000. Mais malgré tout, l'éditeur a dû payer 10 000 euros pour avoir, pour la liberté de publication.
Et pas contre vous ?
Non, l'instance, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais. Voilà, n'était pas dirigée contre moi, mais contre l'éditeur qui avait osé publier ce texte.
Est-ce qu'il y a des réactions de votre part, Boris Lochkine, vous ? Documentariste par ailleurs, donc.
C'est sûr, la mise en danger de la photo, c'est aussi la mise en danger du cinéma, et pas seulement du documentaire, mais en fiction, quand vous voulez une fiction un petit peu libre, tourner dans la rue, c'est important, utiliser des figurants qui ne sont pas des figurants, mais des gens qui passent, et si vous supprimez ça, il n'y a plus de vie dans les films. Il n'y a plus que des choses installées.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau itinéraire avec vous, Boris Lochkine, réalisateur. Vous êtes venu au cinéma par le documentaire, on en parlera. Et vous signez aujourd'hui votre première fiction, Hope, qui sortira demain en salle. Un film déjà couvert de prix, dont celui notamment de la SACD. C'était au dernier festival de Cannes. Hope, c'est le prénom d'une jeune Nigérienne qui fait route à travers l'Algérie du Sud et le Maroc vers l'Europe. Puis dans son périple, elle rencontre Léonard, lui migrant camerounais. Le film suit ce couple de naufragés, un couple improbable, qui avance et affronte ensemble tous les obstacles dans cette quête vers l'Eldorado, notamment la violence des ghettos communautaires. Un extrait.
Marche doucement, mon frère.
Il faut marcher. Cette ville, c'est très dangereux. Hein. Si la police te prend, il peut t'amener à Tizawati. Tu t'appelles comment ?
Léonard.
Moi, c'est Gaylor. Dis à ta copine, il fait l'effort de marcher.
C'est pas ma copine, c'est Nigériane.
Reste au coin du mur.
C'est loin, quoi.
Il faut marcher. Pour les Camerounais, c'est là-bas. Au revoir. Bonne chance.
Merci.
Pour les Nigériens, c'est là-bas, derrière des rochers.
D'accord, merci.
Bye.
Ce qu'on entend dans cet extrait, c'est le moment où le couple est guidé vers les ghettos communautaires de Tamanrasset, Rasset, au sud de l'Algérie. Ghetto camerounais pour lui, on vient de l'entendre. Et elle devrait entrer dans le ghetto des Nigérians. On connaît très peu ici la réalité de ces ghettos organisés par des communautés nationales très fermées, autour d'un leader, le chairman, entre chef de village et mafieux. Comment vous êtes-vous rentré en contact avec ce monde souterrain ?
En faisant du terrain, comme pourrait le faire un documentariste que j'ai été, ou comme le ferait un anthropologue, c'est-à-dire... on a affaire à des communautés, donc en pénétrant ces communautés petit à petit, en rencontrant des gens, en nouant des liens, en essayant de comprendre. Vous interrogez un migrant sur son parcours. Au début, vous posez des questions comme n'importe qui de l'extérieur peut faire. Et puis, vous apprenez des choses. Et puis, à l'entretien suivant avec la personne suivante, vous en savez plus. Vous commencez à comprendre qu'est-ce qui est en jeu, quelles sont les choses qu'on raconte pas tout de suite, les petits trafics, les stratégies de chacun. Et puis là, vous commencez petit à petit de plus en plus à être de l'intérieur. Et c'est ça qui est important, c'est être de l'intérieur.
À quel moment ces ghettos se sont mis en place, en fait ?
Je pense, parce que c'est vrai que j'ai mené beaucoup d'entretiens.
Ah oui, beaucoup d'enquêtes, c'est pour ça. Il y a donc vraiment une enquête de documentariste auparavant.
Je vais devenir le spécialiste mondial du ghetto. Je dirais au tournant des années, la fin des années 90 et le début des années 2000. C'est né, en fait, très précisément, l'organisation du ghetto avec ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire ce personnage du chairman qui dirige le gouvernement. C'est né là, dans cette ville de frontalière de Marnia. C'est la ville d'Algérie qui fait la frontière avec le Maroc. Et c'est là que les migrants arrivent en quelque sorte au bout de la route. C'est là qu'ils doivent payer leur guide avant de commencer l'autre partie du voyage, qui est l'organisation de la traversée pour l'Europe. Et donc, il y a des gros enjeux financiers. Et les ghettos de Marnia sont nés là parce que c'est comme une sorte de point de péage où on va taxer les migrants. Et donc, des structures se sont mises en place pour les taxer. Et ces structures, ce sont en fait les ghettos et leur gouvernement.
Anne Farine.
Qu'est-ce que ces lieux, ces ghettos-là, impliquaient en termes d'image? Comment est-ce qu'il fallait les filmer?
Alors, c'est assez compliqué, évidemment. Le film, c'est une fiction. Mm-hmm. Donc, il ne s'agissait pas de filmer dans les vrais ghettos. C'est-à-dire que dans ces vrais ghettos, qui sont des lieux souterrains, comme vous disiez, c'est-à-dire clandestins, un peu dangereux, très remuants, où la police peut débarquer du jour au lendemain, on ne peut pas vraiment faire du cinéma. On ne peut pas y tourner un scénario, on ne peut pas y faire plusieurs prises d'une scène. Donc on a tout reconstitué, j'ai tout reconstitué ailleurs, avec un grand souci d'authenticité. Pour ça, j'ai fait appel à tous les figurants du film qui eux-mêmes sont des vrais migrants.
Aucun acteur professionnel, hein.
Oui, il n'y a aucun. C'est vrai que ce n'est pas seulement les figurants, je devrais le dire tout de suite. C'est tous les rôles et même les deux rôles principaux qui sont joués par des non-professionnels, des gens qui n'avaient jamais joué avant, qui, je pense, n'avaient même jamais imaginé jouer, qui ne s'étaient jamais projetés là-dedans, que j'ai pris à un moment de leur vie où ils ne pensaient pas du tout à ça. Je l'ai fait ça parce que, dans un souci de cohérence du projet, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai écrit avec un souci de vérité, de rendre compte d'un monde. Il ne faut pas ensuite, quand on va jouer le scénario qui est écrit, y amener des acteurs qui n'auraient rien à voir avec cette réalité, qui n'y apporteraient pas la bonne langue, les bonnes intonations, la bonne énergie.
Je crois que vous avez entendu parler de ce film, Lionel Duroy.
Oui, par ma fille qui l'a vu au Festival d'Angers et qui m'a envoyé, qui m'a bombardé même de SMS de félicitations en me disant qu'elle sanglotait à la fin du film et qu'il fallait absolument, absolument que je voie ce film. Donc je me suis précipité sur la bande-annonce et je vais le voir demain. Mais je voulais le dire à Boris parce que c'est assez beau, Angers, c'est quand même formidable. Ma fille a 18 ans, c'est une classe de terminale. Ils ont pu voir beaucoup de films et ils ont vu ce film-là et qui les a vraiment beaucoup marqués.
Le film est entièrement tourné au Maroc. Vous avez travaillé un premier scénario avant d'y aller avec une dramaturgie serrée, des rebondissements. Un scénario que vous avez ensuite entièrement réécrit. Qu'est-ce qui ne cadrait plus une fois arrivé sur le terrain ?
Ce scénario, je l'avais écrit à partir d'une base de documentation. On n'écrit pas sur un monde étranger sans se documenter quand même. Mais malgré tout, même si je crois que j'avais quand même essayé de bien faire mon travail, même si j'avais lu des livres, des rapports, plein de choses. Malgré tout, quand j'ai commencé à faire du terrain, c'est-à-dire à rencontrer vraiment des migrants, à parler avec eux, à nouer des liens, à commencer à rentrer dans leur logique, je me suis dit que finalement, tout ce que j'avais lu et tout ce que j'avais écrit, c'était pas tout à fait à la mesure de ce que je voyais. Et notamment, il y a une chose qui me sautait aux yeux en parlant avec eux, c'était la dimension complètement communautaire du monde de la migration. C'est-à-dire qu'un ghetto, ces endroits où ils se réfugient pour ne pas se faire arrêter, et aussi pour organiser la suite du voyage, un ghetto n'est jamais un ghetto de migrants en général, ou c'est jamais un ghetto d'Africains en général. C'est un ghetto ivoirien, congolais, camerounais, nigérian. Et on ne se mélange pas entre ghettos, jamais. Et ça, dès lors que j'ai compris ça, j'ai compris que c'était évidemment ça devait être le moteur de la dramaturgie, c'est-à-dire que mon histoire de couple devait être une histoire de couple entre deux personnages de deux communautés différentes. Dès lors, je me suis dit quelles sont les deux communautés les plus intéressantes à opposer. Forcément, anglophone, francophone, parce que là, vous avez une différence qui saute, j'allais dire aux yeux, non, qui saute aux oreilles, qui est tout de suite perceptible pour le spectateur. Et puis, en plus, les Nigérians, c'est une communauté tout à fait particulière sur la route. Les Nigérians, c'est ceux que tout le monde redoute. Vous parlez avec un francophone, il va vous dire... Ne t'approche jamais à moins de 50 mètres d'un Nigérian parce que voilà, tu vas avoir des problèmes, ceci, cela. Les Nigérians ont la réputation d'être les plus mafieux. Ce sont eux qui font la loi sur la route. Donc, prendre une fille de la communauté nigériane, c'était tout de suite augmenter higher the stakes, comme disent les Américains, c'est-à-dire augmenter les enjeux dramatiques de l'histoire. Et ensuite l'autre personnage, un Camerounais, parce que les Camerounais sont une communauté très importante, très intéressante aussi, une des seules qui tient tête parfois aux Nigérians.
Manoufaine.
Alors ce couple, justement, vous ne le lâchez pas, hein, du début à la fin, le couple Léonard-Hope, avec une alternance de plans larges dans des paysages, hein, filmés, comme je disais, un petit peu à la manière d'un western, et puis de plans serrés, beaucoup plus agités, justement, dans les différents ghettos des migrants, qui sont beaucoup filmés de nuit, à peine éclairés. Qu'est-ce que vous aviez demandé à votre directrice photo? Quelle lumière en particulier cherchiez-vous?
Moi, ce qui m'intéresse... Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir la lumière la plus simple possible. Généralement, le film est très nocturne. La nuit, c'est toujours plus compliqué que le jour. Et plus on éclaire, moins c'est bien. Malheureusement, il faut quand même éclairer un petit peu parce qu'une caméra ne voit pas dans le noir. Mais souvent, les éclairages pêchent par excès de lumière quand on commence à voir des lumières qui ne sont pas naturelles, qui n'ont pas les bonnes directions, etc. Donc, moi, ce qui m'intéressait, tout ce qui me plaît le plus dans la photo du film, c'est ces scènes nocturnes où l'image est éclairée par des choses qui jouent dans l'action. Par exemple, ces scènes où on éclaire avec des lampes de poche. Comme dans la nuit où surgissent ces militaires, ces gardes frontières algériens. Qui viennent contrôler les migrants au passage de la frontière entre le Niger et l'Algérie dans le désert.
Et qui viennent se servir parmi les migrants.
Voilà. Et qui donnent lieu à la première scène très dramatique du film. Voilà, pour l'image, j'aime beaucoup ça, ces lumières qu'on retrouve dans le ghetto. C'est-à-dire que dans le ghetto aussi, il y a les lampes de poche, parce que dans un ghetto, il n'y a pas d'électricité. C'est un lieu clandestin, c'est un lieu qui n'a pas d'existence, donc il n'y a pas de raccordement électrique. On s'éclaire à la bougie, à la lampe de poche, avec un brasero. Et ça, j'aime beaucoup que dans le film, on ait réussi à garder, et c'est vraiment le travail, je trouve vraiment incroyable de la chef opératrice belge, Eline Kirschfink, d'avoir su utiliser toutes ces sources de lumière intradiégétiques, comme on dit dans le jargon.
Elle vient de la fiction ou elle vient du documentaire, justement, votre chef-op?
Elle a fait un peu des deux, mais surtout de la fiction. Mais c'est quelqu'un que j'ai choisi pour son extraordinaire sens du cadre à l'épaule. Moi, je viens du documentaire. Quand j'ai fait des documentaires, je cadrais moi-même. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté de déléguer son cadre à quelqu'un d'autre. Parce que le cadre, voilà, où est-ce qu'on regarde quand il y a un geste, quand on est à l'épaule et donc ça bouge, qu'est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'il faut rester sur le visage ou est-ce qu'il faut descendre sur la main qui tend le billet? Et ça demande du feeling, ça ne peut pas se discuter complètement à l'avance. Donc il faut prendre quelqu'un qui a le bon feeling, le bon tempo et de préférence le même que vous.
Lionel Duroy, je vous vois très attentif à ce que dit Boris Loschkine.
Mais je suis très... D'abord, tout ça m'intéresse beaucoup, mais je remarque qu'il doit passer par la fiction pour dire une réalité. C'est ça qui me trouble beaucoup, parce que c'est un débat passionnant qu'on a souvent, à quel point la fiction exprime mieux la réalité, la douleur, l'émotion, qu'elle est dans la réalité.
Alors même que vous avez travaillé le documentaire.
Oui.
Fallait-il d'ailleurs passer par la fiction pour ce premier pas en Afrique? Parce qu'auparavant, vous aviez déjà fait des documentaires au Vietnam.
Je pense que dans mon cas, c'était un peu un prolongement naturel de mon travail. C'est-à-dire quand je faisais des documentaires, j'avais envie de raconter des histoires. Le film que j'ai fait au Vietnam, Les âmes errantes, qui racontait l'histoire d'une femme qui cherche le corps de son mari 30 ans après la guerre au Vietnam. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est déjà une histoire d'amour. Donc, il y a comme une sorte de prolongement naturel. Si on veut raconter des histoires, à un moment donné, autant le faire avec la fiction. C'est plus simple, même si c'est aussi beaucoup plus compliqué.
Mais non, en l'occurrence, c'est pas plus compliqué. Vous disiez que vous n'auriez pas pu filmer vraiment les ghettos.
Alors, c'est plus... Oui, c'est pour ça que je dis que c'est plus simple, c'est plus évident, c'est plus compliqué après à mettre en œuvre pour des raisons... Voilà, les dispositifs techniques sont plus compliqués, donc le montage financier est plus compliqué. Mais en termes de pensée, je suis d'accord avec vous, c'est plus évident, donc plus simple.
Oui. Justement, au niveau de la difficulté du tournage, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des menaces qui ont été proférées lors de ce tournage, Lionel ? Pas Lionel Duroy, pardon, Boris Loschkine.
Non, pas de menaces. Je dois dire que c'est un tournage que moi, je trouve qu'il s'est très bien passé. Parce que voilà, le Maroc, où on a tourné, est un pays de cinéma. Une fois qu'on suit la procédure, qu'on demande les autorisations... Il n'y a pas vraiment de problème à attendre. Donc, c'était relativement simple avec les autorités marocaines. Parfois un peu tendu dans des quartiers populaires où on tournait. Je sais que c'est vrai, un jour, par exemple, on tournait dans une cité qui est très dangereuse et violente pour les migrants subsahariens qui s'y font souvent agresser par des jeunes voyous marocains. Il y a une grande tension entre les comme ça, entre les Marocains et ces migrants. Et on est en train de tourner cette scène où Léonard vient acheter un passeport. Il y a les trois migrants, trois Congolais qui attendent, qui tiennent le mur, comme on dit, en bas d'un escalier. Et un gars est sorti avec un grand couteau et puis a essayé de couper en deux un des Congolais. Et heureusement, il n'a pas réussi parce que tous ces migrants ont l'habitude de ça. Ils vivent dans cette peur, ils vivent sur leur garde continuellement. C'est un monde qui est dur.
À nous.
Faire du couple le motif central du film, c'est aussi s'attarder sur les femmes, hein, sur la figure de la femme migrante qui est rarement évoquée. Et vous dites, rien ne m'a préparé à ce que j'ai ressenti en parlant directement avec elles, hein, c'est-à-dire au moment de la préparation, hein, j'imagine, du film. Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté et qu'est-ce qu'il en reste dans la construction du personnage féminin central ?
Au fond, je pense que tout le film est là. C'est-à-dire que, et c'est paradoxal, parce que j'avais déjà écrit l'histoire avant, parce que l'intrigue était déjà là, je l'ai un petit peu aménagée, mais elle était là. Mais je crois que tout est dans ces rencontres. C'est-à-dire, j'ai rencontré ces femmes, je me souviens très bien d'avoir rencontré un même jour plusieurs femmes congolaises et une camerounaise, donc des francophones, qui m'ont raconté leur route. Et leur route à toutes était une route marquée par la prostitution. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des femmes qui se vendent elles-mêmes, ça peut être des femmes qui à un moment donné tombent sous la coupe d'un homme puissant dans un ghetto qui la soumet à l'esclavage, ça peut être des femmes qui à un moment donné se disent que c'est plus intéressant pour elles de se trouver un protecteur qui va leur épargner de devoir coucher avec tous les autres hommes, mais que ce soit l'une ou l'autre, c'est toujours une forme de marchandisation de leur corps. Et j'ai rencontré ces femmes, j'ai trouvé qui m'ont parlé. Je suis encore étonné qu'elles m'aient parlé de manière aussi libre et aussi ouverte. C'était vraiment bouleversant. Enfin, ça avait une force comme ça. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'entendais les hommes, les migrants, me dire, me répéter, parce que je leur posais toujours la question. Ils me disaient, c'est plus facile pour une femme, parce qu'une femme peut toujours se débrouiller. Et sur la route, se débrouiller, tout le monde comprend.
Ça veut dire se vendre.
Ça veut dire se prostituer. Mmh. Mais personne n'emploie ce mot, on préfère l'euphémisme, se débrouiller. Et j'ai vraiment entendu dire ça des dizaines de fois. Et maintenant, ça me met très en colère de penser qu'on dit ça et de l'entendre dire et redire. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai rencontré ces femmes, après ces rencontres, j'en ai fait d'autres, mais je me souviens de ce jour-là. Mais après ces rencontres, au fond, je ne pouvais pas raconter autre chose. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, en tout cas, mon point de vue... Je savais où était mon émotion, je savais où était mon point de vue. Mon point de vue, c'est ça, c'est cette femme qui est là, dans un monde très, très, très majoritairement masculin. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Et qui est-ce qui va l'aider ? Est-ce qu'il va y en avoir un qui va lui tendre la main ? Et celui-là, qu'est-ce qu'il va être prêt à risquer pour cette femme ?
Alors cette femme s'appelle Hope dans le film, mais son vrai prénom c'est Endurance, ce qui dit quand même quelque chose aussi de ce qu'elle a pu vivre. Pas un seul comédien professionnel au casting, ce sont tous des vrais migrants castés au Maroc, notamment dans les ghettos de Rabat. Qu'est-ce que vous avez dû inventer en termes de direction d'acteur ? Parce que bien sûr, la lecture du scénario est quasiment impossible, et la langue utilisée par les uns et les autres est très codifiée. Comment vous avez pu travailler pour les faire jouer ?
Je crois que c'est un travail de direction d'acteur avec des non-professionnels, c'est d'abord... beaucoup d'écoute. Et c'est vrai qu'on pense pas qu'on pense direction, on pense que diriger, c'est dire des choses. Moi, je pense que c'est d'abord beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que si vous donnez un texte à des acteurs non professionnels, que vous leur dites « apprenez le texte et puis on se revoit demain », ou si vous leur donnez des consignes comme on donne dans une école de théâtre, ça peut pas marcher. Donc forcément, il faut se mettre à leur hauteur, les écouter, et en les écoutant, en comprendre qu'est-ce qui va marcher avec eux. Et donc adapter en permanence le scénario à eux. Adapter évidemment tous les dialogues à eux. Alors ça, je l'ai fait pendant longtemps. J'ai travaillé pendant un long mois, tous les jours avec mes deux comédiens principaux. Eux, on a vraiment vécu ensemble et on a pu comme ça travailler jour après jour pour en faire des comédiens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ce sont des comédiens. Ils portent le film. Et moi, je les trouve fantastiques tous les deux. Avec les autres, c'était avec tous les rôles secondaires, les chairman, le faussaire, les bandits et tout ça. C'est forcément un autre travail. J'avais moins de temps. Je pouvais pas leur réécrire toutes leurs scènes. Donc avec eux, c'est beaucoup plus un travail où rentre de l'improvisation. Je leur expliquais les situations Et puis ensuite, je voyais qu'est-ce qu'ils pouvaient me proposer avec ça. Ouais. Et puis, il fallait que je les attire dans mon scénario. Parce que moi, j'avais des exigences dramatiques, j'avais une histoire à raconter. Ouais. Donc, il ne fallait pas que ça parte dans tous les sens. Mais en même temps, je voulais quand même bénéficier de toute la richesse qu'ils avaient en eux. Et ils ont une richesse incroyable. Ils ont des dons d'improvisation. Vous avez passé tout à l'heure l'extrait de ce petit ivoirien génial qui raconte l'histoire du moustique qui boit du Coca-Cola et en Europe, le moustique boit du Coca-Cola
et les le moutons, cafard. Et les moutons ont des soutiens-gorge. Et le cafard bouffe des spaghettis.
Voilà, c'est ça. Mais évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ça. Jamais j'aurais pu imaginer un truc pareil. Mais j'ai pas ce talent, moi, j'ai pas cette imagination verbale. Ça, c'est lui qui est venu, c'est lui qui l'a apporté. Il est venu avec un talent d'improvisateur dans lequel, moi, j'ai plutôt dû faire un travail de tri. C'est-à-dire qu'il m'a proposé énormément de choses, et c'était drôle, et vraiment tout le monde riait. Et avec ça, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui marche le mieux? J'ai sélectionné, on a répété un peu ensemble. Mais c'est plutôt un travail de concentration, d'orientation, mais c'est lui qui propose. Ça, c'est un gars qui pourrait faire du stand-up.
Que sont devenus les deux autres comédiens, enfin ceux, les comédiens principaux du film?
Ils sont encore au Maroc tous les deux. Justin, après le film, Justin, donc il joue Léonard, il voulait refaire son identité. Moi, quand je l'ai connu, il avait deux passeports. Aucun des deux était à son vrai nom. Ça, c'est un monde où on peut s'acheter un passeport au marché. Hein, donc, lui, c'était très important pour lui de revenir dans le monde d'en haut, celui où on peut avoir un vrai passeport et son vrai nom dessus, se refaire son identité, comme il disait. Donc il est retourné au Cameroun, je l'ai aidé un peu pour qu'il se fasse son passeport au Cameroun, parce que ça n'a pas été simple. Je l'ai aidé ensuite pour qu'il revienne au Maroc, cette fois-ci avec un tampon de visa sur son beau passeport tout neuf. Et maintenant il est au Maroc et il rêve et c'est pas seulement un rêve d'ailleurs, il voudrait faire du commerce de bananes plantains achetées au Cameroun et revendues au Maroc. Voilà, donc je pense qu'il va mener sa barque d'une manière ou d'une autre.
Et endurance ?
Je m'inquiète beaucoup plus pour Endurance, qui est toujours au Maroc avec son petit garçon qui a maintenant 2 ans et demi et qui, chaque fois que je lui parle, me dit « il n'y a rien pour moi au Maroc, donc je vais sûrement prendre un Zodiac ». Voilà, on sait combien c'est dangereux cette traversée. On sait aussi que pour une femme, et encore plus, je dirais, une femme nigériane, chez nous, après, sans papier, c'est qu'est-ce qu'elle va faire ici? Donc moi, je l'avertis à chaque fois de tous les dangers de ça. Et en même temps, je ne peux pas prendre cette décision pour elle. Et en même temps, je comprends vraiment qu'il n'y a rien pour elle au Maroc. Je comprends vraiment qu'elle, qui a un petit garçon qui a 2 ans et demi, elle puisse se dire « Ok, je viens en France ». Peut-être que je vais avoir une vie de merde, mais mon petit garçon, il va aller à l'école et ce sera un petit Européen.
Comme à chaque invité, depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son personnel, et voici ce que vous avez choisi.
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu. Gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai
on quitte le Maroc, on quitte l'Algérie. Identification de ce son, Boris Lochkin, c'est une signification pour vous?
C'est une magnifique chanson de Ching Kong Son, qui est le plus grand compositeur de chansons vietnamien, chantée par Hien Ly, la plus grande chanteuse vietnamienne. C'est la chanson qu'on appelle la chanson Nhạc Vàng, la chanson jaune. C'est-à-dire par opposition à la chanson rouge, communiste et révolutionnaire, chanson très mélancolique qui exalte le chagrin de la guerre et les âmes perdues.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
Moi, ça me rappelle toutes mes années vietnamiennes, ça me rappelle tout ce temps que j'ai passé à voyager, moi aussi un peu comme une âme errante au Vietnam, pour y faire des films et aussi pour y vivre beaucoup de choses très fortes.
Nghe ngoài biển động buồn hơn hôm nay.
Plateau Tremblement avec vous, Lionel Duroy, écrivain, prix Joseph Kessel et prix Renaudot des lycées en 2013 pour L'Hiver des Hommes. Vous signez Échappée chez Julliard, l'histoire d'Augustin, écrivain tremblant. Tremblant, c'est vraiment un motif littéraire magnifique. Un écrivain terrifié alors que sa femme Esther aime un autre homme et qui, pour moins trembler, s'en va à Ouzoum, c'est comme ça qu'on dit ?
Ouzoum.
Ouzoum, sur les traces d'un livre, un livre monument de Siegfried Lenz, La leçon d'allemand, paru en 1968. Ce livre racontait l'histoire d'un jeune garçon sur les bords de la Baltique pendant la Seconde Guerre mondiale, déchiré entre un père policier qui était aux ordres du régime nazi et un vieux peintre, inspiré de la figure d'Émile Nolde, à qui le régime avait interdit de peindre. Qu'est-ce qu'un tel roman représente pour vous et à quel moment il est arrivé dans votre vie ?
Il est arrivé assez tard, il est arrivé au moment où j'écrivais L'hiver des hommes, je rentrais de Bosnie en fait. Il représente d'abord un refuge, ce texte. C'est drôle, il m'a rappelé mes plaisirs de lecture quand j'avais 13-14 ans et que je fuyais la réalité en m'enfermant dans un livre. À l'époque, je lisais Troya, Sesbron, des gens comme ça.
Comme et le narrateur d'ailleurs de votre roman,
oui.
Qui lit Troya, la saga oui. En trois tomes.
Oui, bon, vous allez parfois me reconnaître.
Hein. Bien sûr. Oui.
Et il se trouve qu'en 2011, je traversais une période difficile et j'ai trouvé un bonheur de lecture incroyable dans ce livre de Siegfried Lenz, La leçon d'allemand. Mais c'est aussi que ce texte recoupe beaucoup de mes thèmes. Lorsque vous parlez de l'enfant déchiré entre un père et un artiste, je me suis retrouvé, je crois, d'abord inconsciemment, puis après très consciemment, entre l'amour que je portais à mon père, qui était d'extrême droite, dont les idées étaient vraiment dures à supporter, et en même temps, la découverte de la lecture de gens comme Camus, comme Sartre, comme Knut Hamsun, qui en fait m'apprenait la vie et m'apprenait que la vie, c'était autre chose que ce que disait mon père que j'aimais tant. Et c'est la même chose là, dans le dispositif de Siegfried Lenz, qui est très beau en fait. C'est un enfant éclaté entre son père qui est nazi et c'est ce peintre Émile Nolde qui est magnifique. Et tout d'un coup, il découvre que la vie artistique, c'est tellement plus beau que ce qu'il vit chez lui où ça sent la soupe aux choux, quoi, où il n'y a pas de livre. Et en fait, il naît au monde, ce gosse. Il va naître au monde à 13 ou 14 ans en découvrant ce vieux peintre qui est véritablement martyrisé par son père, le policier.
Même Farine.
Vous remerciez en fin de roman Lionel Duroy, Günther Berg, pour avoir organisé une rencontre avec Siegfried Lenz. Pourquoi fallait-il le rencontrer ? À quel moment est-ce que ça a eu lieu ? Je dis pourquoi fallait-il le rencontrer alors qu'il est justement question d'habiter une fiction, d'habiter le livre.
Oui, je voulais parler de ça avec lui. La rencontre a eu lieu le 8 janvier 2014 à Hambourg. J'étais en train d'écrire en Allemagne, puisque je suis resté écrire mon livre en Allemagne. Et tout d'un coup, j'ai eu très envie de le connaître, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. C'était une envie, j'écrivais sur lui, j'écrivais sur ses personnages, j'écrivais à Ouzoum, dans ce vent balayé par la mer, etc. Et j'ai eu envie de le rencontrer, j'ai envoyé un mail à Berg, Günther Berg, qui m'a très gentiment répondu. Et très vite après, un mail direct de Siegfried Lenz, qui m'a dit « Je suis très fatigué, mais si vous avez le courage de revenir à Hambourg, c'était pas loin, c'était 100 km, je vous reçois quand vous voulez. » Et en fait, je voulais qu'il me raconte la naissance de son livre, et je voulais lui dire que je travaillais sur des thèmes proches des siens, et je voulais absolument le rencontrer. Voilà, j'ai une très belle photo de nous deux, j'espérais que je lui dédie mon livre, j'espérais donc qu'il le lirait, et il est mort malheureusement il y a quelques mois.
Le peintre Émile Nolde, dans le roman de Lenz, s'appelle Max Ludwig Lansen. Il finira désespéré par mendier auprès des nazis la restitution de ses œuvres. Auriez-vous accepté d'être vous, ce mendiant-là, vous à qui votre famille a voulu interdire d'écrire, et vous que votre fils a traduit en justice pour colère ?
C'est un débat qui m'a passionné, en fait. C'est une grande part d'échapper, ce débat-là. Nolde a été condamné pour avoir supplié les nazis de lui rendre ses toiles. Nolde a été véritablement torturé par les nazis, puisqu'en 1937, il était le peintre principal représentant l'exposition Art dégénéré de Goebbels. On avait même suspendu une de ses toiles magnifiques au-dessus de la porte des toilettes, pour l'humilier un peu plus. À partir de 1942, les nazis lui interdisent de peindre. Ça, Siegfried Lenz ne l'a pas inventé, c'est véritable. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment effrayant. Comment on peut interdire à un artiste de créer? Évidemment qu'il allait mourir, Nolde. Donc pendant toute la fin de la guerre, il va peindre très discrètement de minuscules aquarelles qu'il appelle des images non peintes et qui cachent au fond d'un tiroir. Et qui vont d'ailleurs inspirer les dernières toiles de sa vie puisqu'il meurt en 1956. Mais autour de ce thème de la censure, c'est vrai que je suis très révolté par ça. Et je crois qu'effectivement, j'ai retrouvé les lettres de Nolde suppliant Goebbels de lui rendre ses toiles. J'ai retrouvé les traces du voyage qu'il fait à Vienne pour supplier les nazis de lui donner un atelier pour travailler. Et contrairement à ce qui a été fait dans la presse allemande d'après-guerre, où on l'a condamné pour ça, Moi, j'ai une infinie compassion pour son geste et une infinie miséricorde. Je ne sais pas comment dire. J'étais bouleversé de voir qu'un homme de plus de 70 ans, on le réduisait à supplier qu'on lui rende ses œuvres. C'était toute sa vie qu'on lui avait volée. Voilà. Donc, je ne serai sûrement pas l'homme qui lui jettera la pierre.
Manu Farine.
Vous qui aimez installer un livre dans sa première phrase, cette fois le livre s'ouvre sur la phrase suivante. « Ce matin, je me suis réveillée avec l'appréhension de ne pas écrire, de ne pas trouver mon livre. » Cette angoisse-là, cette culpabilité qu'on retrouve dans l'ensemble de votre œuvre, qu'est-ce qu'elle dit de ce qui vous fait écrire ?
Elle dit cette chose essentielle qu'à 18 ans, je crois, j'étais en profonde dépression. Comme je me souviens du personnage que j'étais à 18 ans aujourd'hui, je me vois tout près du suicide, en fait. J'ai passé, je crois, les années de mes 18 et 19 ans à l'hôpital tous les 6 mois parce que je me fracassais la tête en moto, etc. Donc, il y avait quelque chose de mise en danger évident. Et à partir du jour, en fait... À 19, 20 ans, je décide d'écrire. Je vois très bien que l'écriture va véritablement me sauver. Et pourtant, c'est terriblement difficile d'écrire. Avant de publier mon premier roman en 88-90, je vais travailler 10 ou 15 ans seul à écrire, en passant par le journalisme pour arriver à manger. Mais en fait, je continue à écrire tout le temps. Je compare beaucoup l'écriture au violon. Hein. C'est le même temps d'apprentissage avant d'entendre sa voix lorsqu'on écrit. Avant, on écrit de la merde, en fait. Mais il faut passer par le stade d'écrire de la
avant
merde.
Avant, on triche, vous dites.
Pardon ?
Vous dites qu'avant, on triche. Hein.
Tricherie existentielle.
Avant d'entendre sa voix.
Je trouve que c'est de la tricherie. Et c'est passionnant sur ce que c'est que l'écriture. Pourquoi on triche ? Parce qu'on essaie d'écrire bien, et quand on se relit, c'est pas que ce soit mal écrit, c'est que ça dit absolument pas ce qu'on voulait dire. Donc on se dit, je me suis fait avoir, je ne suis pas un tricheur parce que je fais pas exprès de tricher, mais ce que je lis là, c'est pas ce qui me traverse, c'est pas ça. Moi, ce qui me traverse, il faut que j'arrive à trouver des mots pour le dire. Et ça, c'est 10 ou 15 ans de travail, en fait, à vomir de désespoir, parce que quand vous vous relisez, vous vous dites, c'est pas bien, quoi. C'est académique, c'est nul, quoi. Ça ne dit rien.
Boris Slavskin, je vous vois sourire à ce moment-là.
Oui, moi, malheureusement, j'ai jamais lu les livres de Lionel Duroy, mais je l'écoute parler, j'adore la... ce que je sens de passion de vérité chez lui, de passion de vérité et rien d'autre. Et j'adore ça.
Vous avez fait une formation de philosophie avant de basculer du côté du documentaire. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans la première formation ?
Oh, je crois que j'ai eu une grande passion pour la philosophie et puis je me suis rendu compte en finissant ma thèse que j'étais devenu un historien de la philosophie et je me suis dit mais c'est pas pour ça que j'ai signé. Voilà, et puis je me voyais pas vieillir dans les bibliothèques où je venais de passer les 5 dernières années. Je me suis dit, mais le monde est vaste, il faut y aller.
Parallèlement, oui, Lionel Duroy,
j'adore entendre ça, parce qu'effectivement, on passe par la création pour arriver à attraper la vie. Et j'entends ce que peut être un philosophe enfermé dans des bibliothèques. Et en même temps, j'adore la philo, parce que moi aussi, c'est la philo qui m'a révélé le monde. Donc je suis profondément d'accord, mais à un moment, c'est pas suffisant. Il faut qu'on attrape quelque chose.
Alors vous-même, vous êtes accoucheur de paroles par ailleurs, parce que parallèlement à votre activité d'écrivain et de romancier, vous avez prêté votre plume à plusieurs personnalités pour écrire leurs mémoires aux éditions XO. Je pense à Sylvie Hartand, Mireille Dac, Ingrid Betancourt, plus récemment Gérard Depardieu, d'ailleurs le livre est formidable. Qu'est-ce que cet exercice vous apprend ? Est-ce que ça relève seulement du journalisme ?
Ah non, c'est pas du journalisme. Le journalisme, j'en suis revenu parce que c'est très caricatural. Non, ça, ce que j'adore, et je suis d'accord avec Boris là-dessus quand il parlait de la préparation de son film, c'est écouter. En fait, ces livres-là, tout le bonheur pour moi, c'est écouter quelqu'un me raconter comment il a fait pour vivre. C'est ça qui est intéressant. Et vous remarquerez, à travers tous les noms que vous venez de citer, que ce sont toujours des gens qui viennent de très loin et qui ont eu un destin. Mireille Dac, elle est fille de marchande de légumes.
On l'avait reçue, si elle nous avait raconté ça, ouais.
Voilà. Gérard Depardieu, je ne vous fais pas de dessin, il est enfant de rien, il est de la rue, quoi.
Châteauroux.
Sylvie Vartan, elle vient de Bulgarie, elle est partie à 9 ans, elle a habité dans un hôtel sordide au Halles, à Paris, avec ses parents dans une misère profonde. Et Ingrid Betancourt, c'est autre chose, on pourra en parler. Je l'ai connue à un moment où elle voulait se présenter à l'élection présidentielle, et donc ça me passionnait parce que j'adore la Colombie. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est... Chaque fois qu'on me propose comme ça quelqu'un, je regarde, j'accepte de loin, j'accepte pas tout, j'accepte quelques personnes qui ont un destin, et ce qui va me passionner, ce sont les mois que je vais passer à écouter. et je me tais, je pose très peu de questions.
Est-ce que cet exercice a fait bouger quelque chose dans votre écriture, vous qui travaillez précisément au bord de l'autobiographie avec une dimension fictionnelle?
Non, pas du tout. Ça n'a rien fait bouger. Rien fait. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je comparerais ce travail-là, en fait, à celui d'un acteur qui interprète un rôle. Si vous jouez Napoléon ou vous jouez De Gaulle, vous prenez la voix de Napoléon ou de De Gaulle. Quand je travaille avec Gérard Depardieu, que j'aime beaucoup, que j'admire, etc., au moment où j'écris son texte, qui est fait entièrement avec ses mots, je suis la voix de Depardieu. Donc c'est vraiment comme un rôle d'acteur. Je suis toujours écrivain quand je fais ça, mais j'interprète quelque chose. Et en fait, assez curieusement, ces livres qui me passionnent n'ont jamais influencé mon travail d'écrivain dans mes propres livres.
Quand vous parlez d'interprétation, ça peut faire aussi écho à un vocabulaire de psychanalyse. Est-ce que vous avez le sentiment que cette pratique-là, même si vous ne la pratiquez pas, est le sous-texte d'une bonne partie de votre œuvre, Lionel Duroy ?
C'est ça, c'est ça. On pourrait le dire comme ça. Je, dans les deux cas, quand j'écoute des gens me raconter leur vie, je n'aurai jamais la prétention de dire que je me pose en analyste, mais par le fait que je ne pose jamais de questions et que je les laisse aller vers ce qu'ils ont envie de dire à ce moment-là, tout en organisant ensuite dans ma tête, en songeant que je vais écrire le livre derrière, je suis un peu dans la position d'un écoutant en psychanalyse. Dans mes propres livres, je vais vous faire un aveu. J'ai plusieurs fois essayé de faire une analyse parce que ça m'intéressait. Et en fait, je n'ai jamais réussi. Chaque fois que je suis en face d'un analyste, et ça m'intéresse hein, parce que je suis passionné par ça, je me mets à écrire, en fait. Donc, je me mets à raconter un truc. Et donc, je ne suis pas du tout dans la position d'un analysant. Et donc, j'ai pris conscience de ça à 30 ans, que je n'y arriverai jamais. Donc, je construis une œuvre. Je ne sais pas ce qu'elle est. En tout cas, ce sont mes livres. C'est peut-être en partie analysant, je ne sais pas, j'écris en tout cas.
Manou.
Alors comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé de choisir un son et vous avez choisi celui-ci. Identification de ce son, Lionel Duroy, et pourquoi l'avoir choisi ?
J'ai choisi parce que j'adore Maurice Pirlat. Du point de vue du cinéma, Boris, quand il me parle de la façon dont il nous parle, de la façon dont il filme, ça me rappelle aussi beaucoup Pirlat, qui savait saisir des choses qui étaient évidemment hors scénario, qui savait saisir. Mais là, ce qui est très fort dans cette scène, je trouve, c'est l'individualité du créateur. Voilà. Il se pose en individu qui défend son film contre tous les corps constitués, contre toutes les pudeurs, contre tous les censeurs. Et j'adore ce personnage qui aura construit de façon très solitaire une œuvre à lui. Très, très identifié, magnifique aujourd'hui encore, forcément. Voilà, cette personnalité-là me plaît beaucoup.
Dernière question, Manou.
Vous qui êtes donc écoutant parfois auprès de gens qui veulent écrire leur autobiographie, quel écrivain vous pourriez penser pour faire la vôtre de biographie?
J'aurais bien aimé travailler avec quelqu'un comme Philippe Roth, par exemple. Mais vous voyez, chaque fois que je l'écoute, je le lis tout le temps, et chaque fois que je l'écoute, je retrouve plein de points communs. J'aime beaucoup, beaucoup cet homme, voilà. Ce genre d'écrivain, peut-être.
Endurance, toujours au Maroc, avec son petit garçon, qui a maintenant 2 ans et demi, et qui, chaque fois que je lui parle, me dit « il n'y a rien pour moi au Maroc ». Donc je vais sûrement prendre un Zodiac.
Écouter quelqu'un me raconter comment il a fait pour vivre.
Ok, je viens en France, peut-être que je vais avoir une vie de merde, mais mon petit garçon, il va aller à l'école et ce sera un petit Européen.
Merci à nos invités. Boris Lochkin, Hope, sortira en salle demain. Lionel Duroy, Échappé, apparu aux éditions Julliard. Et je signale que Ça s'est fait comme ça, avec Gérard Depardieu, est disponible chez XO Éditions. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Benoît, il est où Jimmy?
J'ai vendu.
Quoi? Où est-ce qu'il est?
C'est des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien, adopté.
Mais il est où?
Je t'ai dit que je l'ai vendu.
Demain, eh bien demain, une émission cinéma avec Luc Dardenne et Olivier Assayas. Sans oublier la session, non, il n'y aura pas de session, ça sera la chronique de Jean-Marc Lalanne. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssette Wendoy, Hippolyte Babilote, journal de la culture Zoesfez, à la prise de son Anthony Thomasson et Dofar Garrid, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcast est sortie de franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.